Dans le cadre de l'exposition collective La Fugitive, le Centre d'art contemporain d'Ivry de Crédac invite la commissaire d'exposition et critique d'art Marie Canet pour une rencontre autour du travail de Marc-Amy Tchaïmovitch. Il est question des pièces emblématiques de l'artiste français ainsi que de son positionnement à contre-courant du minimalisme austère des années 60 et 70. Marc-Amy Tchaïmovitch, lui, œuvre plutôt pour un art où le domestique, l'intime et le personnel sont synonymes de politique, tout comme la recherche du beau peut s'inscrire dans une démarche engagée. Le livre que Marie Canet prépare sur l'artiste français paraîtra avant la fin de l'année 2022.
Marie, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est historienne de l'art, critique d'art, commissaire d'exposition et a été l'autrice d'un livre récemment paru sur Joséphine Baker qui s'intitule Baker, que je vous recommande chaleureusement. Et on avait eu l'occasion, Marie et moi, de faire un projet autour de Bruno Pelassi en 2015. Donc ça remonte maintenant et on avait fait un petit livre. Voilà, ça a été un projet important pour le Crédac, pour moi. Et je suis absolument ravie que Anna Mendoza Aldana, qui est donc la commissaire de l'expo La Fugitive, ait eu aussi à cœur d'inviter Marie.
C'est la première fois que je vais parler en public du travail que j'ai fait avec Marc-Amy Tchaïmovitch. Ce n'est pas tant au sujet du livre, finalement, que j'ai orienté ma présentation, que sa présence dans cette exposition. Alors, c'est vrai qu'il a fallu du temps pour faire ce livre, notamment parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Il aurait dû sortir il y a 2 ans. C'est un livre que j'ai monté, en fait, à partir de conversations que j'ai eues avec l'artiste, mais qui est un artiste qui a toujours, en fait, qui développe des sortes de stratégies pour échapper, en fait, au rapport trop direct aux choses, et qui invente en fait toujours des biais, qui parle à côté ou qui tente en fait dans son travail, parce que ça correspond aussi à sa vie, à échapper en fait au regard et aux critiques, à ce genre de choses. Donc il a chez lui la notion d'intimité, de privé est très importante, ce qui fait que sur toutes les conversations même qu'on a eues, souvent, en fait, ça partait dans tous les sens. Je pouvais retenir, par exemple, j'ai des enregistrements très drôles où il y a 3 minutes d'art ou 3 minutes de quelque chose qui peut faire sens. Et puis tout le reste, c'est au sujet de la vie, au sujet des gens, voilà. Et j'avais demandé à Marc-Amy s'il avait envie, comme il ne peut pas être là, s'il avait envie de dire quelques mots au sujet de Proust. Et typiquement, il m'a répondu en me parlant d'Andy Warhol, en développant quelque chose qui est presque, de mon point de vue, un peu un non-sens. Et il finit donc par me dire qu'il y a certainement beaucoup de liens entre Proust et Andy Warhol, qu'ils sont des dandies, des inverts, dans le terme de Proust, des oiseaux de nuit, des voyeurs, qu'ils sont brillants en termes de créativité. Avec cette fin qui, je pense, est plutôt une blague, parce qu'il sait que je dois en parler, il va écouter le podcast. Dear Marie, just think about it. Donc voilà, un ensemble de stratégies que Marc-Amy met en œuvre pour à chaque fois contourner ou passer juste à côté. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, pour présenter son travail, il y a peut-être une chose qu'il faut déployer, c'est les origines du travail, sinon on ne comprend pas forcément d'où il vient, ou comment il a travaillé, ou comment une œuvre comme la plateforme qui est dans la salle d'expo, là-bas dans la chambre, peut exister. Et donc il y a une période charnière qui est entre 1968 et 1974. Marc-Amy Tchaïmovitch est né juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil, pendant longtemps, en fait, il a évité de dire la date de sa naissance. Donc juste après-guerre, il est né à Paris, donc, et il emménage avec sa famille au Royaume-Uni en 1954. Il a souvent parlé dans les écrits qui existent ou qui ont pu circuler autour de son travail de son introversion, des difficultés qu'il a eues enfant à s'intégrer, à réussir à l'école, à communiquer, avec aussi l'image comme ça, c'est un peu de l'anecdote, mais ça fait sens au bout d'un moment, avec l'image comme ça de sa mère qui est une femme française, catholique, parce que son père est un mathématicien juif d'origine polonaise, mais sa mère donc est catholique et elle n'a jamais parlé anglais, ou elle l'a un peu balbutié, elle a vécu toute sa vie à Londres. Donc sa mère comme ça aussi qui s'est repliée un peu sur le foyer et sur les tâches domestiques qui étaient à la maison. Et une chose va être importante pour lui, qui va être vraiment l'ouverture qu'il pouvait espérer, en fait, c'est l'art, qui va lui permettre, en fait, en intégrant une école d'art, de s'intégrer et de rencontrer une communauté d'amis et à travers le travail, donc de développer des relations avec les autres. Alors, il fait ses études à Ealing School of Art, puis à Camber School of Art, et puis il rentre dans un master de peinture en 1968, année charnière, à Slade. Il rentre dans ce master de peinture alors qu'il ne veut plus peindre, ou que ses positions en fait, vis-à-vis de la peinture ont radicalement changé. Et ses positions en ce qui concerne la peinture changent, parce que d'une part, il y a deux événements très importants. D'une part, il a sa première déception amoureuse. Et puis, il assiste aux révoltes à Paris, dans la rue. Et comme beaucoup, en fait, il est un socialiste convaincu et un réformiste. Et il remet en cause, comme l'ensemble de sa génération, les valeurs établies. En ce qui concerne l'art, il est très critique envers le dessin et la peinture, qui sont des activités pourtant qui ont une place prépondérante encore dans les écoles et dans les académies. Alors que pour lui, ce sont des activités qui sont trop éloignées du réel et que tout son travail va justement de se raccrocher à une forme de réel. Et son opposition est aussi celle de toute une génération, puisque à l'époque, remettre en cause en fait les valeurs établies et ce qui représentait les formes de la génération précédente faisait partie en fait de cette idée de transformer le réel et ce rapport au réel. Et il est intéressé par les travaux pop de David Hockney, de Jasper Jones aussi, de Richard Hamilton. Mais ce qu'il cherche en fait en ce qui concerne son travail, c'est de développer un langage qui soit proche de lui en termes culturels, esthétiques, sensibles, et non pas s'inscrire lui-même dans une histoire qui a déjà été tracée par les autres. Et donc il réfléchit à la manière dont il pourrait construire un cadre de référence qui lui soit propre et qui ne soit pas hérité de l'histoire et de ce qu'il qualifie de choses dominantes, en fait. Et donc, il y a la littérature très sophistiquée de Marcel Proust, d'une part, qui l'aide comme ça à trouver sa voie. Il y a le sens radical du style et l'engagement politique de Jean Genet. Il y a aussi la peinture intimiste de Édouard Vuillard, qui lui permettent, en fait, déjà de se décaler et de construire un cadre de référence qui soit hors Grande-Bretagne, hors États-Unis, et puis aussi de renouer avec ses origines françaises. Et donc, en 1968, il est en rupture totale avec la peinture, et en 1971, il développe, en fait, en dehors de l'école, une activité qu'il qualifie de mystérieuse, car clandestine. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte des chaussures chez les fripiers, il les repeint en argent, et il les dépose dans des lieux publics, comme des halls d'hôtels, comme des ponts, des lieux, en fait, à traverser. On peut dire que ce sont des happenings visuels. Ça se passe au petit matin. Et ce qu'il espère avec ce type de démarche, c'est de toucher un public qui sera non initié, en fait, non initié à l'art. Et comme il vise d'abord donc au petit matin des travailleurs, la plupart des passants seront plutôt indifférents à son geste. Mais ceci dit, pour lui, l'expérience est essentielle car elle lui permet de comprendre les potentialités visuelles et tactiles de l'extension spatiale de la peinture. Pour lui, cette expérience incarne en fait cette ouverture politique qu'il cherche et qu'il désire et qui deviendra l'un des enjeux de sa pratique, du moins c'est ce que je crois, qui est celle du potentiel social de l'expérience esthétique quand elle est partagée. Et il étudie les théories d'Anne Capro sur l'amenuisement des distinctions entre art et non-art, sur les liens unissant art et vie. Et il vient juste d'obtenir son diplôme, et avec tous ses camarades, ils vont dans la cour de l'école et ils brûlent toutes leurs peintures. Donc ils passent tous, en fait, à autre chose. Et rapidement, en fait, il réalise cette œuvre qui est très connue, parce qu'il participe à une exposition qui s'appelle Three Life Situations à Galerie House à Londres. Et il participe à cette exposition avec deux artistes qui sont plus âgés que lui et qui ont été très engagés dans les révoltes de 68 à Londres, qui sont d'une part Gustav Metzger et de l'autre Stuart Beardsley. Et tous trois, en fait, doivent vivre dans la galerie le temps de l'exposition. Beardsley est au rez-de-chaussée, Gustav Metzger est au troisième étage, et Marc Camille est à l'étage intermédiaire et il occupe une ancienne salle de bal. Et il y présente cette œuvre qui s'appelle Celebration Real Life. Et ce qu'il fait avec cette installation, c'est qu'il invite les visiteurs à partager un moment avec lui. Et il passe des disques qui sont à l'époque Bob Dylan, les Rolling Stones, Janis Joplin ou Roxy Music. Je vais citer Jeanne Fischer, qui est une critique qui a décrit pour la première fois l'installation. Elle écrit « La plus grande des salles occupées par l'artiste était une élégante salle de bal transformée en salle de travail contemplatif consacrée au sens. La lumière naturelle avait été éliminée au bénéfice de projecteurs de théâtre équipés de stroboscopes et de filtres dont les couleurs, réfractées par les facettes de trois globes tournant lentement au plafond, éclaboussaient les murs argentés et le sol gris. Au sol, une guirlande électrique dessinait un parcours lumineux traversant un paysage fait d'objets éparpillés. Des perles de pacotille, un masque de carnaval, un chapeau de clown en forme de cône, des fleurs, des miroirs, une petite reproduction du baiser de Rodin, un buste de Beethoven, des barbelés et des sous-vêtements, ainsi que d'autres objets de valeur sentimentale, de goût douteux ou tout simplement incongrus. L'espace subissait de petites modifications quotidiennes provoquées par les réactions du public. » Donc les objets que vous voyez sont sélectionnés par Chemovitz. Ils sont installés au sol. Donc il y a aussi des cotillons, un loup blanc en dentelle, des bougies. Il y a un portrait de Lénine. Il y a un numéro de The Silver Surfer. Il y a aussi un appareil photo, des fleurs. Et donc beaucoup de ces objets ont été ramassés par terre ou ont été achetés sur les étals de Brixton. Et l'agencement au sol, puisqu'on le regarde depuis notre position à nous, donc l'agencement au sol produit une sorte de regard aérien sur un monde un peu comme ça en miniature, d'autant plus que les visiteurs, à l'époque, ont souvent fumé un joint avant d'entrer. L'artiste recommande d'ailleurs aux visiteurs, là je le cite, de se laisser aller à expérimenter des niveaux complexes de contradictions, de paradoxes et d'activités. Dans la salle, donc, les chansons tournent en boucle, comme les boules disco et les filtres colorés. Roger Cook, qui est un bon ami de Marc Amy, qui était au collège avec lui, parle de l'éternel cycle de l'amour et du désir. Et donc, le dispositif dans son ensemble est la mise en œuvre radicale de tous les moyens à disposition, physiques, intellectuels, émotionnels, pour inclure en fait le visiteur dans le processus de l'œuvre, comme dans la vie de l'artiste. Et avec cette œuvre, l'art devient le média autour duquel s'organise, pour Chemovitz, la vie privée, la sociabilité, et là où se discute et s'organise peut-être l'action politique. Et donc l'artiste passe avec aisance d'un espace à l'autre, et le spectateur donc est accueilli par ses soins. Chemovitz espère qu'il soit un possible collaborateur et qu'il puisse interagir et augmenter le projet. Et donc cette œuvre reste emblématique dans le parcours de Chemovitz, d'une ouverture sociale radicale. Son esthétique colorée et totale est conçue en réaction aux pratiques conceptuelles de l'époque qui sont jugées trop arides par l'artiste, voire excluantes, bien qu'elle s'oppose elle aussi à des médiums jusque-là considérés comme académiques, comme le dessin et la peinture. Mais ce que veut donc Chemovitz surtout, c'est inclure l'autre dans la réalisation de son projet. Dans son carnet de recherche, il écrit, je cite, « Implication plutôt que détachement, être inclusif plutôt qu'exclusif. » Et donc c'est à ce moment-là qu'il prend aussi ses distances avec ce qu'il appelle le dogmatisme esthétique du projet artistique de la gauche. Et il affirme en fait, contre la radicalité militante qui prévaut plutôt à cette période, son penchant à lui pour les couleurs intermédiaires et notamment pour les couleurs argentées, puisque c'est une couleur qui reflète en fait les choses qui sont autour. Et là, vous voyez donc le plan de l'installation, donc de l'étage qui à Gallery House. Et donc, l'installation s'étend donc au sol, mais elle vit aussi, enfin elle survit dans les espaces adjacents de la galerie. Là, c'est donc le plan original qui a été annoté par Chemovitz. Et ces lieux adjacents sont qualifiés suivant leur fonction. Il y a la salle de lecture, qui est le lieu de l'analyse politique, qui est dédié à l'époque à la revue Seven Days, qui est un hebdomadaire socialiste radical. On y trouve aussi une sélection de livres, dont les romans Madame Bovary de Flaubert, L'immoraliste d'André Gide, et puis il y a aussi Le balcon de Jean Genet. Dans cette salle, on peut boire du thé et puis discuter et sociabiliser. Et puis il y a aussi donc, l'espace de l'œuvre, qui est dit espace de contemplation. Et séparé du reste, il y a une salle de repos où vit l'artiste, C'est là où, donc, où il peut vivre. Et, puis, et quand les visiteurs ne sont pas là, l'artiste donc prend soin de l'œuvre. Il change les fleurs, il s'occupe de l'installation. Et donc Chemovitz cherche à développer, et c'est là la difficulté, un langage radical qui prenne en compte les émotions et le plaisir. Ce que, à l'époque, n'autorisaient pas les esthétiques politiques d'obédience marxiste, pour qui, comme ça a été longtemps le cas, l'utilisation sensuelle de la couleur et tout penchant décoratif était un signe de déviance bourgeoise. Et donc pour Chemovitz, au contraire, enfin, dans son projet, c'est que la couleur et la jouissance de la couleur peuvent être des outils du socialisme, une fois en fait qu'ils sont libérés de leur subordination à la droite. Donc l'idée, chez lui, c'est de reprendre le pouvoir sur des formes qui ont été, prises par la droite et par peut-être la bourgeoisie, et de prendre ces formes et d'en faire en fait des outils du socialisme pour refonder en fait une communauté à partir de là, et donc à partir d'une expérience beaucoup plus sensuelle du réel. Donc Roland Barthes affirmait la même chose, à peu près, en 73, donc à peu près à la même période, quand il écrit son texte « Le plaisir du texte ». Ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il fallait en finir avec l'idée qu'il y ait une contradiction entre engagement social ou idéologie d'un texte et son pouvoir de plaisir qu'il qualifie de pouvoir érotique. Peut-être je le lis. « Toute une petite mythologie tend à nous faire croire que le plaisir, et singulièrement le plaisir du texte, est une idée de droite. » À droite, on expédie d'un même mouvement vers la gauche tout ce qui est abstrait, ennuyeux, politique, et l'on garde le plaisir pour soi. Soyez les bienvenus parmi nous, vous qui venez enfin au plaisir de la littérature. Et à gauche, par morale, oubliant les cigares de Marx et de Brecht, on suspecte, on dédaigne tout résidu d'hédonisme. À droite, le plaisir est revendiqué contre l'intellectualité, la cléricature. C'est le vieux mythe réactionnaire du cœur contre la tête, de la sensation contre le raisonnement, de la vie chaude contre l'abstraction froide. À gauche, on oppose la connaissance, la méthode, l'engagement, le combat à la simple délectation. Et pourtant, si la connaissance elle-même était délicieuse. Des deux côtés, cette idée bizarre que le plaisir est chose simple, ce pourquoi on le revendique ou le méprise. Le plaisir, cependant, n'est pas un élément du texte, ce n'est pas un résidu naïf. Il ne dépend pas d'une logique de l'entendement et de la sensation. C'est une dérive, quelque chose qui est à la fois révolutionnaire et asocial et ne peut être pris en charge par aucune collectivité, aucune mentalité, aucun idiolecte. Avec Chemovitz, le plaisir, sous l'impulsion du décoratif qui va prendre de plus en plus de place dans sa pratique, devient le média du social, car il permet en fait de rassembler des personnes qui partagent au même moment une même expérience visuelle. La sensualité est donc ramenée du côté du social, et avec cette position, si vous voulez, avec cette œuvre, en tout cas Celebration, il conteste simultanément différents degrés de domination, formelle, auctoriale, sociale et culturelle. D'abord en ouvrant la question de la peinture et du dessin à celle de l'expérience spatiale, ensuite en déplaçant la question de l'auteur au niveau du collectif, puisqu'il attend en fait une participation des visiteurs, en affiliant ses décisions formelles et sa démarche politique à des mouvements de la contre-culture, une contre-culture Kemp, urbaine, nocturne et générationnelle. Plus précisément, en fait, en inscrivant son travail dans un champ de référence esthétique underground et pré-queer, par exemple la littérature ouvertement homosexuelle de Jean Genet, la culture de l'ambiguïté visuelle comme sexuelle du glam rock, et notamment de David Bowie, mais aussi la réflexivité dans le cinéma de Jean-Luc Godard, et puis donc la peinture intimiste d'Edouard Vuillard. Soit un ensemble de références esthétiques qui sont, à l'époque, encore marginales, et qui contredisent, elles aussi, les hégémonies de formes dominantes, basées pour la plupart sur une sorte de pureté visuelle, conceptuelle ou identitaire. Et donc, la deuxième œuvre qui me semble importante pour comprendre comment tout ça se fabrique, en fait, comment tout ça travaille, c'est cette œuvre qui s'appelle Table Tableau, qui est un autoportrait photographique qui est pris en 1974 sur Approach Road. Alors, ça, c'est la photographie. En fait, il a rejoué chez lui une scène qui, en fait, est issue d'une performance qu'il a écrite. Et dans cette performance, il avait demandé à un de ses amis qui est musicien de jouer du violon. Lui était censé être mélancolique dans un café. Et il avait une sorte d'illumination en entendant cet air après qu'il se recouvrait le visage en argent, en peinture argent. Et donc là, dans la version photographique qui a fait la couverture de certains magazines, pour l'époque, on voit là, donc c'est Chemowitz lui-même qui performe, et donc il est à moitié allongé sur une table, dans un environnement qui est en fait assez codé. Il utilise beaucoup en fait le codage à partir des éléments, des objets, des... Et donc là, par exemple, ça se passe au niveau, on voit pas très bien, mais bon, il y a le cendrier Pernod, il y a une bouteille de Ricard, il y a les deux bougies allumées, il y a les crocus dans le vase sur le mur. Il y a les roses, les lettres enrubannées, le journal qui lui permettent en fait comme ça, et puis le rideau aussi tiré avec cet effet en fait de rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Et la coiffeuse, donc avec cette idée qu'il y aurait un backstage, si vous voulez, et que donc l'artiste se prépare avec toujours cette possibilité, si vous voulez, cette question un peu narrative qui se passe et performative qui se passe dans son travail. Et déjà là, on voit que Chemowitz, il évite, comme il le fera beaucoup, de regarder la caméra ou de faire que son regard, si vous voulez, croise le nôtre, en tout cas dans les performances qu'il va réaliser. Et là, c'est une œuvre qui arrive juste après en fait tous ces questionnements en fait esthétiques, culturels et politiques. Et à cette date, comme beaucoup d'artistes, il doit aussi, enfin, il est obligé, si vous voulez, de prendre en compte les effets de mai 68. Parce que bon, il y a eu toute cette fête sociale, cette grande révolution, et puis après, il y a cette question de retourner au travail pour les artistes. Et retourner au travail, pourquoi faire et de quelle manière, tout en questionnant même la notion de travail. Et cette image, en fait, correspond à ce moment et de questionnement et de transformation. Pour Chemowitz, en fait, la rupture est réelle. La scène de l'art, en fait, même le vocabulaire moderniste, qui est encore très présent, ne correspond plus à sa manière de vivre ni à son attitude envers l'art. Et donc, comme beaucoup, il est dans ce moment où, en fait, il est dans une phase de reconquête du réel. Et pour lui, ça passe par l'affirmation de sa sensibilité, par la contestation, en fait, des postures viriles qui sont encore associées à l'époque aux gestes de création artistique. Et donc, ce qu'il fait là, c'est qu'il expérimente une nouvelle manière d'être au réel, dans un espace qui n'est plus collectif, évidemment, mais qui est privé. C'est dans sa chambre, là où se joue son intimité. Mais de cette chambre, en fait, il essaye d'éprouver différents niveaux de réalité. C'est à partir de la chambre qu'il produit et qu'il va produire des excroissances formelles de sa subjectivité. Ce qui fait que la chambre devient en retour une sorte de protubérance sociale de son intimité. Chemowitz y développe ce qu'il nomme son désert. Ça veut dire que c'est là qu'il met à distance le spectacle. Et pour construire en fait une réalité, sa réalité, qui sera plus adaptée en fait à sa manière de vivre et à sa sensibilité. Et qui lui permettra aussi d'échapper à ce qui est donné a priori comme réel. Et c'est à cette date donc qu'il aménage sur Approach Road, qui est dans un quartier à Londres. Et la mairie de Londres a mis des bâtiments à disposition des artistes pour y travailler et y vivre. L'appartement qu'occupe Chemowitz est composé de deux espaces. Il y a ce qu'on appelle le basement, en sous-sol, et il y a un espace pour vivre, et il y a une chambre aussi et une cuisine. Et à l'étage, ce qui est supposé être le séjour, est la salle à manger. Et alors que ses collègues en fait, vont dégonder les portes, repeindre les murs en blanc, mettre des néons, Chemowitz va aménager cet espace pour y vivre. Il va accrocher des rideaux verts qu'il a lui-même dessinés. Ça, c'est le premier geste important qu'il fait. Et même si ça paraît anecdotique ou anodin, faire des rideaux et accrocher des rideaux dans ce qui est supposé être l'espace de travail et transformer son espace de travail en espace de vie et arriver à inverser les deux, faire que la vie devienne l'espace de travail, est tout à fait nouveau à l'époque. Et il va commencer aussi à développer une pratique picturale de type décoratif, puisqu'il va décorer son appartement. Et il va étendre en fait sa pratique de la peinture qu'il ne voulait plus faire comme ça se faisait avant. Il va la transformer en fait en une sorte d'extension spatiale qui va recouvrir les murs de sa maison. Et qui va aussi être joué dans le choix de ses vêtements, dans la manière dont il va apparaître à la ville. Et pour lui, en fait, c'est aussi important parce que c'est une manière de se désidentifier en fait des concepts et des idéologies normalisatrices qui sont portées par le capitalisme. Sur Approcheroad, donc, il réalise ses premiers papiers peints à l'aide d'un pochoir parce que, explique-t-il, c'est ce qu'il avait besoin de voir. Il produit ce geste en réaction, par désidentification donc, au modèle proposé dans le commerce, car il était insatisfait et il désirait, il insiste là-dessus, faire face à sa propre subjectivité, affirmer ce qu'il désirait être et non pas se soumettre en fait à des modèles préexistants. Et il développe alors, dans son appartement, un ensemble de rituels et de gestes manifestes comme une application aux tâches domestiques et à la conversation, ce qu'il appelle des perfectionnements de l'habitat. Et donc progressivement, il inverse jusqu'à les dissoudre les espaces de vie et de travail. Et donc son lieu de vie devient son espace de travail, et son espace de travail, le lieu de la formalisation de sa vie. Et il explique, les années 70 furent très politisées. La conception politique qui me convenait est résumée dans la formule « personal is political ». J'ai fait mienne cette idée que notre comportement intérieur peut avoir une dimension politique. Plus j'avançais dans ma réflexion, plus je me sentais aliénée par la distance entre ma recherche intérieure et la réalité de mon environnement immédiat. Concevoir différemment mon lieu de vie m'est apparu comme un besoin vital, corporel. J'ai perçu la nécessité de renverser le point de vue traditionnel, masculin, qui consiste à traiter avec mépris les aspects domestiques. Et évidemment, il est très marqué par les contestations féministes aussi. Sans le féminisme, il ne serait pas, arrivé là. Et donc, sur Approcheroad, il commence à développer son projet esthétique d'intensification du réel et de radicalisation des apparences. C'est une question éthique et politique. Et donc, tel est l'enjeu du décoratif chez Chemowitz. Il habille les murs de la maison. Il contient l'activité artistique et la vie de l'artiste entièrement tournée vers le soin de son espace, de son perfectionnement visuel, sensuel et politique. Et donc là, évidemment, il y a ce qu'on a appelé la dissidence décorative dans le projet moderniste, qui avait tendance en fait à marginaliser toutes les formes de sentimentalisme afin de faire prévaloir une autre idée de l'art basée notamment sur la structure et la donnée, au lieu de en marginalisant en fait ce qui avait à voir avec le corps et les sentiments. Et là, excusez-moi, mais ça, c'est une sorte d'autoportrait qui a beaucoup circulé de Marc-Camille Chemowitz. Et donc, on le voit dans l'encorbellement de cette fenêtre de Approcheroad. Et là, vous avez The Arch, qui est une sculpture qui est à chaque fois reconstruite quand elle est présentée en fonction des espaces d'exposition où elle est montrée. Et en fait, elle vient casser, si vous voulez, ou déséquilibrer le volume d'un espace. Elle est posée sur la pointe, à la base, et elle est toujours comme ça, ensuite, adossée à un angle. Et donc, elle vient comme ça contrarier, si vous voulez, les volumes. Et là, on voit, donc, c'est encore chez Chemowitz. Donc, tout ce type d'image, évidemment, est extrêmement codifié, hein. Au sol, il y a des sculptures qu'il a faites. Il y a The Arch, donc qui est de couleur coquille d'œuf. Il y a les fleurs et les murs verts. On voit pas très bien, mais avec les formes déjà qu'on va retrouver ensuite dans nombreux travaux de Chemowitz, des formes plutôt curves. Donc ça, c'est l'installation qui est présentée dans la salle qui s'appelle La Chambre, si je me souviens bien, qui fait évidemment, on voit aussi les liens qui sont tissés entre l'importance en fait de cet espace chez Proust, qui est lui-même un espace de rêverie et de création et de fantasme, on peut dire, et puis chez Chemowitz. et notamment avec ce dispositif presque, cette installation que je dirais moi picturale, qui est réalisée entre 1984 et 2008, enfin il l'a finalisée en 2008, et qui s'appelle Partial Vocabulary, ce qui est assez marrant parce que c'est très presque strict comme titre, c'est presque moderniste, et que moi je relis en fait dans l'œuvre de l'artiste à d'autres dispositifs picturaux ou installations comme celle-ci, qui est une installation de 1982 qui s'appelle Triptych Leaning, et où donc là, c'est une installation intermédiaire, mais c'est il fait comme ça, se juxtaposer comme un peu ici, quoi, des propositions visuelles. Ou comme là, ça c'était une installation, un accrochage qu'il avait fait en 2018 au Jewish Museum, où il avait réinstallé ses panneaux comme ça. Ou là, ça c'était à la Kunsthal de Berne en 2020, avec des tissus. Là, c'est le livre 12 décors textiles que j'ai amené. Où on sent aussi qu'il y a la question entre des surfaces, en fait, la superposition des surfaces et des motifs, qui vient aussi, je crois, hein, du livre. C'est-à-dire du passage comme ça, des pages, et qui lui permet ensuite de penser la juxtaposition ou le défilement d'une certaine manière. Et donc voilà, ça c'est Partial Vocabulary. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que je le remets en fait dans l'histoire de l'œuvre de Marc Camille, qui est un déploiement voilà, d'un vocabulaire formel, mais qui va des coussins au tapis, mais qui pourrait très bien renvoyer aussi à la question des panneaux qu'on a vus plus avant, et qui est aussi une sorte de formalisme, puisque ça s'appelle Partial Vocabulary, mais qui est aussi narratif, et qui marche comme ça toujours sur la question de l'hypothèse, puisque la plateforme est couchée, donc avec cette possibilité, cette impulsion que pourrait provoquer l'installation, qui est en fait de se coucher dessus. Et c'est là où en fait il produit aussi une alternative camp à la question, pourtant très formelle, de la juxtaposition en fait des motifs, avec toujours cette idée que les espaces peuvent être occupés ou que ce sont des espaces visuels qui peuvent être utilisés. Donc ça, par exemple, je le renvoie à une autre œuvre qui est la chambre qu'il a fait pour Jean Cocteau, donc qui a été présentée pour la première fois en 2004. Il a rebaptisé cette œuvre Cocteau récemment. C'est un dispositif mutant, c'est lui qui utilise ce terme, puisqu'il y a un ensemble d'objets fixes qui sont complétés à chaque fois que l'installation est rejouée. Et ça, c'est suivant les contextes. Et donc, souvent, il invite des artistes à collaborer. Et parmi eux, il y a eu Francis Picabia, Tom of Finland, Nadia Vallis ou Marie Laurencin. Et donc, parmi les éléments fixes dans Cocteau, il y a deux lampadaires en bronze de Giacometti. Il y a des sculptures de Chemovitz qu'on va voir plus tard. Il y a aussi la chaise longue de Marcel Breuer. Il y a aussi le recueil The Rope de Tom of Finland, ainsi que la bouteille de parfum qui avait été faite à l'époque, qui était distribuée dans les supermarchés, qui s'appelait État libre d'orange, Tom of Finland. Et il y a aussi un tirage photographique de Wolfgang Tillmans, donc deux œuvres de Marie Laurencin, et aussi une photographie en noir et blanc de Tariq Alvi. Et donc, Chemovitz a conçu cette installation comme un portrait détourné du poète Cocteau et comme un environnement propice au rêve que lui a inspiré la période opium de Cocteau, une période pendant laquelle donc, le poète expérimente les drogues suite au décès de Raymond Radiguet, qui était sa muse et dont il était très amoureux. Raymond Radiguet est mort en 1923. Et à partir de ce moment-là, Cocteau décide de manière très rationnelle et très décidée de prendre de la drogue pour échapper à la tristesse. Donc il remplace une addiction par une autre. Et donc Chemovitz lui invente cet espace pour pouvoir vivre pleinement ses rêveries diurnes enfumées. Et donc c'est un lieu qui est pensé enfin, vraiment pour l'érotisme, pour l'apaisement et pour l'esthétique. Et cette chambre, en fait, comme la chambre sur Approach Road, est un lieu d'expérimentation où l'artiste intensifie en fait ses liens entre les événements et son rapport à l'extérieur par le fantasme. Et donc à chaque présentation, Chemovitz convoque de nouvelles figures et à chaque fois les institutions ont pour charge de trouver une œuvre d'Andy Warhol. Et Warhol et Cocteau, dans le projet, et maintenant Proust, on peut ajouter, sont intimement liés dans ce projet de par leur personnalité et leur manière de travailler, et parce que tous sont associés dans l'esprit de Chemovitz à l'image de la mort. La première œuvre de Warhol qui a été accrochée dans l'installation était une sérigraphie sur papier qui appartient à Chemovitz. Ensuite, il y a eu pour l'exposition à The Apple à Amsterdam, donc il y avait un portrait de Beuys réalisé en sérigraphie et poussière de diamant. Et pour l'exposition à Monaco en 2015, c'était un portrait sérigraphié de la princesse Caroline, réalisé en 83. Et donc, l'installation de Cocteau est alliée à un projet plus ancien, réalisé en 1984, pour un événement qui s'est appelé Four Rooms, qui a été organisé à Londres dans un magasin Liberty sur Regent Street, dans le quartier de Soho. Et là, des artistes célèbres participaient au projet. Il y avait par exemple Richard Hamilton ou Tony Caro. Et Chemovitz avait produit cette installation qui, de même, se regardait depuis en fait une rambarde. Il avait aménagé cet espace comme si cet espace était un personnage à part entière. Et on voit déjà des sculptures existantes comme Desk of Decline. Ça, c'est une lampe de Eileen Gray. Là, c'est la Méridienne, c'est aussi Chemovitz. Le tapis, c'est Eileen Gray. Et il y a aussi dans cette installation, il y a cette sculpture qui s'appelle Chest, qui est une commode pyramidale à double tiroir, emboîtée de face et de profil, et qui donc interroge la possibilité de vivre à deux dans un même espace. Et donc, dans un coin, il y a cet écran qui semble un peu tomber du mur, qui est en fait un écran pour une rétroprojection en boucle d'une série de 36 diapositives. L'écran fait aussi un peu office de lampe, puisqu'il anime, si vous voulez, la vie de l'œuvre, et il module comme ça les éclairages de la pièce. Et les photographies qui sont exposées dans cet écran ont été prises ou jouées, si vous voulez, avant dans l'espace. Et donc là, j'ai amené la séquence des 36 diapositives parce que ça me faisait vraiment penser à ce que Anna écrivait au sujet de la chambre, de la relation entre le narrateur et Albertine dans la chambre. Parce que dans cette séquence diapositive, en fait, on voit donc ces deux personnages qui ont à la fois des moments de complicité, tout simples, comme partager un verre ou fumer des cigarettes, et puis des moments de tension physique et émotionnelle qui structurent donc aussi les relations amoureuses, et comme des évitements, des sourires gênés, parfois des regards louches. Je trouvais ça marrant de dire à Albertine, c'est lui. Parce qu'Albertine, donc, est cette figure un peu ambivalente et fuyante. Et Marc-Camille aussi joue de cette ambivalence, en fait, dans son rapport comme ça aux autres, je veux dire, dans l'art. Et notamment, voilà, pour éviter de parler, il passe par des subterfuges ou sinon par des figures tierces. Et donc, il déploie aussi une sorte de mobilité qu'il rend parfois insaisissable, afin d'échapper, je pense, au regard et aux assignations de tout genre. Et donc l'ambivalence d'Albertine, qui est aussi un dispositif, disons, narratif dans le récit de Proust, pour passer de l'un à l'autre, crée une mobilité queer. Katharina Bonnevier parle en fait de performative queerness quand elle parle du travail d'Eileen Gray, qui est une figure très importante aussi pour Chemovitz. Et donc, elle parle de cette performative queerness en parlant en fait de tous les meubles, les formes que Eileen Gray a inventées qui se déplient et qui n'ont pas en fait d'identité fixe ou stable, mais qui peuvent en fait bouger et qui sont pluriels. Notamment, là, c'est une commode de Eileen Gray qui avait été faite pour la villa I-1027. Ça, c'est des sortes de méridiennes qui ont été inventées par Chemovitz. Donc, elles sont doubles comme ça et elles se présentent ensemble. Et dans une interview, Chemovitz a raconté comme ça, ce qui est assez marrant, c'est que quand il a imaginé cette chaise, en fait, pour lui, c'était vraiment une chaise pour le peintre qui doit s'asseoir et faire face à son travail avec comme ça rigueur, alors qu'en fait, il préférait s'allonger et boire un gin tonic. Et donc, il a inventé ces sculptures. Et aussi, cet petit objet en céramique qui s'appelle la coupe Adélaïde, qui est par exemple un bougeoir pour 3 bougies, donc, mais quand vous le retournez, c'est une coupelle à fruits. Et donc, des objets comme ça qui ont une... qui sont duplis, en tout cas. Et là, c'est une image d'un appartement que Chemovitz a eu, avec donc la table aussi, I-1027 de Aileen Gray, qu'elle, a priori, elle avait dessinée pour sa sœur qui aimait boire le café au lit. Et donc, on voit aussi derrière, par exemple, des pochoirs qu'il avait fait dans son appartement. Et là, c'est un paravent de Aileen Gray qui, je crois, si je me rappelle bien, avait été fait pour Madame Lévy, qui est en briquette modulable, comme ça, ce qui permet de choisir un peu l'angle de vision qu'on aura sur les choses, de pouvoir travailler. En fait, ce que ne voulait pas Aileen Gray, c'est d'être surprise par les regards. Et donc, elle a inventé des dispositifs pour échapper, si vous voulez, à des perspectives un peu... contraignante en fait sur elle, et donc elle avait inventé tous ces types de dispositifs. Et ça, c'est des pages d'un catalogue que Chemovitz a fait, qui malheureusement n'existe plus parce qu'il a été passé au pilon. Il avait repris en fait un magazine très célèbre qui s'appelle The World of Interiors, et il avait customisé ce magazine, et donc le magazine, enfin les propriétaires ont fait retirer le livre et l'ont fait détruire. Mais ça, et c'est ce qu'a et Chemovitz, donc avait là, c'est une page que Chemovitz avait fait, où en fait il avait découpé la forme d'Aileen Gray qu'il avait posée devant un lit, devant une chambre, et les paravents qui sont un dispositif et d'accrochage et un objet pictural et une sculpture aussi, que Marc-Amy a beaucoup développé, comme là ou là, ce qu'il appelle les screens. Donc les écrans. Donc là, on a un peu cet effet Aileen Gray avec les fenêtres. D'un côté, il y a de la peinture et de l'autre, c'est de la marqueterie. C'est des formes courbes là qui sont sorties en fait de l'installation qu'on a vue avant, Four Rooms. En fait, il invente des choses ou des dispositifs qui vont faire écran. Et avec cette chose que lui-même va développer dans de nombreuses images qu'il va diffuser, où on le voit pourtant performer. Comme là, ça, c'est une série d'images qui est sortie de la performance partielle éclipse, donc éclipse partielle, avec cette idée en fait de cacher montrer. Et donc, on voit à partir des années 70, en fait, plus il rentre dans son intérieur, si vous voulez, plus il disparaît de la scène médiatique, alors qu'il est normalement très actif sur la scène de la performance. Et donc, il essaye d'échapper au regard. Et donc, il y a ce mouvement, ce tropisme qu'il va mettre en place, un peu comme avec ses objets. Parce que ce qu'il essaye de faire, c'est d'échapper au système de domination qui existe, selon lui, dans l'art, entre regarder et la chose regardée. Et donc, il cherche des moyens de biais, des contournements pour y échapper. Et donc, à partir de là, il se montre tout en disparaissant et il échappe, comme Albertine, à la fixité, et se confond en fait avec une sorte d'impression.